Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Facciamola breve e chiamiamolo sul palco, Matteo Salvini.
Bonjour à tous. Il s'était déplacé en masse dans le port de Catane, à l'est de la Sicile. Les sympathisants du parti d'extrême droite, la Ligue, sont venus le week-end dernier apporter leur soutien au leader du parti, Matteo Salvini. L'ancien ministre de l'Intérieur comparaissait devant les juges pour avoir empêcher le débarquement de 115 migrants sauvés en mer en 2019. L'audience était préliminaire, on ne sait pas encore s'il y aura un procès, mais pour le parti, qui est en perte de vitesse depuis qu'il a été évincé du gouvernement il y a un an, il s'agissait de transformer cet épisode judiciaire en tribune politique. C'est le reportage sur place de Cécile Debarge.
Face à la grande scène installée sur le port de Catane pendant deux jours, des centaines de sympathisants de la Ligue déploient banderoles, drapeaux et t-shirts demandant « Intentez-moi un procès à moi aussi ». Le slogan est devenu viral ces dernières semaines depuis que Matteo Salvini se prépare à son procès dont l'audience préliminaire a eu lieu le 3 octobre. Un chauffeur de salle vient vérifier que tout le monde est prêt à déployer les drapeaux à travers le ciel déjà noir.
Buonasera! Questa era solo una prova, chiaramente, perché tra poco arriva il nostro Matteo.
Dans quelques instants, notre Matteo arrive. La formule illustre bien comment la Ligue a réussi à transformer ce rendez-vous judiciaire en une tribune à laquelle ses soutiens s'affichent et le défendent, qu'ils soient issus du monde politique ou de simples sympathisants, comme Giovanni Arrele, un habitant de Catane qui explique pourquoi il est venu.
Pour montrer mon soutien à un personnage politique dont j'apprécie l'action politique, je suis d'accord avec beaucoup de ses idées et c'est pour ça que je suis venu.
Une autre Sicilienne de Syracuse est venue passer trois jours à Catane pour suivre les débats politiques organisés par le parti et participer au dîner organisé avec 800 sympathisants en présence de Matteo Salvini, censé bien sûr, en théorie, respecter les règles Covid. Surtout, elle n'aurait raté pour rien au monde ce rendez-vous.
Parce que c'est une bataille pour la liberté. Je vois ce soir des gens de toute la Sicile, de toute l'Italie. Ce soir, l'Italie est unie.
Quelques mètres plus loin, Cinzia a fait le déplacement depuis Rome.
Uniquement pour Matteo Salvini.
Comme elle, la moitié environ des participants a fait plusieurs centaines, voire milliers de kilomètres pour être présent.
D'abord parce que je viens de la Ligue, et ensuite parce que je trouve que ce procès est indécent. C'est pas un procès fait contre Matteo Salvini, c'est un procès fait contre les Italiens.
Depuis le mois de mars et les restrictions dues à la crise sanitaire en Italie, les grands rassemblements publics dont Matteo Salvini était friand sont bien plus difficiles à organiser. Faire venir ses soutiens pour le procès était donc une belle occasion de renouer avec l'un des points forts de sa communication, le contact avec les Italiens. Pour mener l'interview qu'il donne sur scène, une journaliste acquise à sa cause chauffe les troupes.
On est ici aujourd'hui pour discuter un peu de tout ça avec lui. On va commencer par ce qu'il attend au tribunal. Mais ensuite, on parlera de manière plus générale de cette période difficile pour la politique italienne. Je ne vous fais pas attendre davantage, on l'appelle sur scène Matteo Salvini.
Facciamola breve e chiamiamolo sul palco. Matteo Salvini.
Buonasera Maria Giovanna, buonasera Catania, grazie. Fatevi un applauso.
Au total, en une petite heure, 15 minutes seront consacrées au procès, le reste à discuter à bâton rompu des enfants de Matteo Salvini, de l'incompétence du gouvernement, de ses thèmes politiques phares, surtout de ses électeurs.
En faisant un tour en Sicile, j'ai trouvé des gens que je ne connaissais pas et qui m'ont dit « J'ai payé mon billet d'avion, j'ai payé le train et je suis venu ici ». C'est une chose qu'il y ait des députés, des sénateurs, des fonctionnaires, mais pour moi c'est très émouvant qu'il y ait le commerçant de Turin, la maman de Bologne ou bien l'agriculteur calabrais qui me dit « Moi je suis venu à Catane parce que je sentais que je devais y être ». Et ça pour moi ça vaut 10 000 procès.
Avant son procès le 3 octobre, Matteo Salvini a passé deux jours en Sicile. Dans la province de Messine et de Catane, il est allé à la rencontre des habitants de deux des communes appelées au vote ce dimanche et ce lundi. Au total, 810 000 électeurs doivent renouveler leur conseil municipal. Un rendez-vous électoral important, deux semaines après des élections régionales dans cette région où la Ligue n'est pas parvenue à ravir les sièges convoités. Domenico Fedele, coordinateur de la Ligue à Riace en Calabre, estime pourtant que le parti est loin d'être en perte de vitesse.
La Ligue n'était pas présente dans les Pouilles, elle n'était pas présente en Toscane, elle n'était pas là en compagnie, et donc peu importe le nombre de voix, c'est déjà une victoire.
Ces derniers mois, le thème de l'immigration, par exemple, l'un des chevaux de bataille du parti, est passé au second plan derrière la crise sanitaire ou bien les problèmes économiques. Depuis la démission de Matteo Salvini en août 2019, la constitution d'un nouveau gouvernement dont il ne fait pas partie et quelques prises de position controversées en pleine pandémie, le leader de la Ligue est moins omniprésent dans le débat public. Pas de quoi y associer une perte de popularité de la Ligue selon Leonardo, un étudiant catanais de 28 ans.
La Ligue est le premier parti d'Italie lorsqu'elle est unie au sein du centre droit avec les autres partis de droite du pays. Après, oui, c'est sûr, en ce moment on parle du gouvernement parce qu'ils prennent des mesures spéciales, ils ont des pouvoirs élargis. C'est juste pour ça qu'ils sont au centre de l'attention.
Pour revenir au centre de l'attention, justement, le procès était une belle tribune, d'abord pour parler d'immigration, mais aussi faire campagne et montrer son engagement auprès des électeurs.
Nous, la Ligue, on fait souvent le contraire de ce que préconisent les grands analystes dans les journaux, et ça, on le fait en silence. On écoute, on rencontre les gens, on prépare le futur, parce que le futur, ce n'est pas d'être assisté, mais le futur de la Sicile et de l'Italie, c'est le travail, la croissance, la beauté.
Selon un sondage mené par Bidi Media et publié le 30 septembre, si les Italiens devaient voter demain pour un nouveau gouvernement, 25,5% voteraient pour la Ligue, contre 22,2% pour le Parti démocrate et 15,4% pour le parti d'extrême droite Fratelli d'Italia. Le mouvement 5 étoiles lui décrocherait et serait à la traîne avec 14% seulement des voix.
Les Allemands célébraient samedi les 30 ans de la réunification, une fête à minima en raison du Covid, loin des grandes liesses populaires. L'ex-Allemagne de l'Est, qu'on appelle aussi les nouveaux Länder, continue de rattraper son retard économique face à l'Ouest. Symbole de ce succès, Leipzig, au sud de l'ex-RDA, une des villes les plus attrayantes du pays, qui compte une économie florissante grâce aux nouvelles technologies. En 2005, le chômage était de 21%. Il est tombé aujourd'hui à 7,3%. Leipzig, ville modèle ou presque, c'est le reportage de Romain Chevalier.
Située à 1h15 en train de la capitale allemande, Leipzig semble être aujourd'hui ce qu'a pu être Berlin dans les années 80. Artistes, danseurs et créateurs d'entreprises ont fait des anciens bâtiments industriels leur terrain de jeu. C'est d'ailleurs dans l'un des immenses hangars à la façade en briques de l'ancienne filature de coton qu'Arthur travaille désormais. Le trentenaire, cofondateur d'une start-up qui développe des logiciels pour l'essai virtuel de produits, a quitté Munich pour s'installer à Leipzig. Et il ne regrette pas du tout sa décision.
Avant, je vivais à Francfort et à Munich, et ce sont des villes assez peuplées. Elles sont très denses, il y a donc très peu d'espace encore disponible pour s'installer. On a alors cherché une ville avec suffisamment de place pour développer notre start-up, et pour ça, Leipzig est parfaite. Quand tu lances une entreprise, comme tu n'es pas rentable immédiatement, tu vis grâce à tes économies. Et ça, c'est beaucoup plus facile de le faire à Leipzig que dans une autre ville d'Allemagne.
Surnommée la capitale des rêveurs par le journal allemand Spiegel, Leipzig est depuis quelques années une ville à l'économie florissante poussée par les nouvelles technologies et les initiatives innovantes. Certains Allemands parlent même d'Leipzig, contraction de l'anglais hype qui veut dire branché, et du Zisch de la ville au vu de l'engouement suscité par la ville. Mais la cité saxonne n'a pas toujours été aussi tendance et attractive. Au lendemain de la chute du mur, la ville est même passée par une période très sombre, comme le raconte Sigrun Kabisch, chercheuse en sociologie urbaine et environnementale à Leipzig.
Pendant les années 90, la ville a connu une terrible crise économique. Leipzig était le centre d'une grosse région industrielle qui reposait sur les mines de charbon. On utilisait le charbon pour la production d'énergie ou pour l'industrie chimique. Et du jour au lendemain, toute cette industrie lourde a cessé d'exister, donc beaucoup de gens ont perdu leur emploi. Et des milliers de personnes ont alors décidé de partir s'installer dans les régions plus prospères de l'Allemagne de l'Ouest.
Leipzig devient alors l'une des villes les plus pauvres d'Allemagne. avec des habitants aux revenus très bas et un taux de chômage conséquent qui dépasse les 20% en 2005. Mais petit à petit, la tendance s'inverse, notamment grâce à l'industrie automobile.
Dans les années 2000, la situation s'est nettement améliorée parce que de grosses entreprises comme BMW ou Porsche ont investi à Leipzig. Elles se sont installées en échange de grosses subventions de la part de l'État. Puis, des établissements scientifiques et médicaux se sont établis ici. Les gens ont alors réalisé que les conditions de vie s'étaient améliorées à Leipzig et qu'il y avait des emplois. À partir de ce moment-là, les jeunes qui étaient partis à l'Ouest sont revenus car ils ont réalisé que l'ambiance avait changé.
C'est le cas de Lamia, une Française de 42 ans. Elle vivait à Francfort avec son mari originaire de Leipzig. À la naissance de leur premier enfant, ils décident d'y revenir. Mais après avoir été séduite par la ville et ses loyers pas chers, elle admet que son regard a évolué.
Les prix déjà ont énormément monté au niveau immobilier. Nous, on a des amis, notamment des amis d'ici, qui ont toujours vécu à Leipzig, qui se sont retrouvés à changer d'appartement, qui se sont retrouvés, on leur a donné congé pour rénover les appartements et les remettre sur le marché. Ça devient de plus en plus gentrifié. Et c'est vrai que pour les gens qui ne sont jamais partis, ou du moins pour les gens qui ont toujours tenu à leur ville, il y a une pilule un peu amère. On le ressent déjà.
Début septembre, des affrontements ont d'ailleurs éclaté pendant 3 jours dans un quartier de la ville entre policiers et manifestants. Les activistes dénonçaient alors le rachat de nombreux immeubles d'habitation par des groupes d'investisseurs financiers.
Et sans évoquer l'nostalgie, cette nostalgie pour l'ex-RDA, on peut clairement aujourd'hui parler d'une fierté portée aussi par la toute jeune génération pour certaines valeurs de l'ex-Allemagne de l'Est. Un pays où le monde ouvrier était à la fois respecté et protégé, où la femme avait un rôle important dans la société. On comprend tout cela en lisant le livre « La RDA après la RDA » d'Agnès Arp et Elisa Gudenstein-Mann. Et c'est ce qu'a expliqué cette dernière à Juliette Rangeval.
Pour nous, la RDA existe aujourd'hui. Elle existe dans les mémoires familiales, dans les transmissions familiales classiques. Elle existe aussi dans certaines pratiques sociales qui persistent, y compris à l'école, par exemple. On évoque le niveau en mathématiques des filles, des choses comme ça, où on voit des différences Est-Ouest aujourd'hui encore, avec pourtant des petites filles qui sont nées après la chute du mur. C'est ça qui était intéressant de voir que la RDA existe 30 ans après, y compris sur la nouvelle génération, ce que personne n'aurait prédit il y a 30 ans, en fait.
Au moment de la réunification, la RDA, elle a été engloutie, en fait, par la République fédérale allemande. Il n'y a pas eu une nouvelle constitution écrite. Il y a eu clairement un gagnant, un perdant, d'une certaine manière.
Oui, mais le gagnant a perdu aussi dans le fait qu'il y ait un gagnant et un perdant. C'est ça qui est intéressant. En effet, vous dites englouti, c'est exactement ça. La RFA s'est juste agrandie. Donc, c'est pas une vraie unification qui aurait nécessité d'écrire une constitution, donc de réfléchir à des choses comme le droit de la nationalité, qu'est-ce qu'on fait, droit du sang, droit du sol.
Chaque entité allemande avait un droit différent sur des questions aussi fondamentales.
Exactement. Mais du coup, pour aller vite... Et il fallait aller vite, ça c'est vrai. Il y avait une petite fenêtre pendant laquelle l'unification était possible, où Gorbatchev était au pouvoir, etc. Donc il fallait aller vite. Et pour aller vite, on a trouvé plus simple d'agrandir la RFA, donc de garder tout le système de loi de RFA. Mais cette accélération, elle a eu un prix politique, un prix social, un prix économique. Et c'est ça que montre aussi le livre. Et c'est ça qu'on découvre de plus en plus aujourd'hui, alors que pour les célébrations des 20 ans, on l'a peu dit ça.
Oui, ça a été dur pour les habitants d'Allemagne de l'Est. Ça a été dur dans le sens où on retient les queues pour consommer devant les magasins. On retient la fin de l'état policier, de la Stasi. Mais il y a eu des choses qui ont été très difficiles à vivre quand même.
Oui. Le début des années 90, c'est une catastrophe économique dans les Nouveaux-Länder, comme on en connaît très peu, avec un chômage. En plus, les gens n'étaient pas habitués au chômage. C'est quelque chose qui n'existait pas. Et le travail était aussi un endroit où s'articulait la vie sociale à travers la brigade, les fêtes d'anniversaire, les gardes d'enfants. Il n'y avait pas d'étanchéité entre la vie professionnelle et la vie privée. Beaucoup moins, en tout cas, que dans nos sociétés actuelles. Et donc, le chômage était vraiment un énorme choc. Et plus le fait que tout un système de valeurs s'inverse, Par exemple, le mineur ou l'ouvrier sidérurgiste qui étaient des héros du travail en RDA deviennent, aujourd'hui on les voit comme des pollueurs, etc. C'est très dur d'inverser comme ça tout un système de valeurs. Et il y a un chiffre que je cite souvent qui montre l'ampleur de la catastrophe, c'est que en 1994, on est tombé dans les nouveaux lenders à 0,77 enfants par femme. On n'a jamais enregistré un taux aussi bas nulle part dans le monde à aucune époque, sauf au Vatican. Donc c'est pour vous dire, ça veut dire que vraiment la crise était très 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 profonde et très douloureuse.
On a beaucoup parlé, il y a peut-être une dizaine d'années, une quinzaine d'années, de nostalgie, mais au-delà de ça, aujourd'hui, on a l'impression, à la lecture de votre livre, que les Allemands de l'Est se réapproprient leur passé et essayent d'en faire quelque chose qui pourrait servir à toute l'Allemagne, finalement.
Moi, j'explique ça par le changement de génération, c'est-à-dire que ce qu'on appelle les Wendekinder, les enfants nés dans les années 70, par exemple, se réapproprient leur histoire, critiquent ce discrédit global et font porter une voix qui est nouvelle, en fait. Depuis qu'ils sont devenus de jeunes adultes professionnels. Donc il y a ce changement de génération qui a permis comme ça d'avoir des voix nouvelles. Il y a plein d'exemples de ça et on le voit aussi assez bien dans le livre. Il y a vraiment une histoire de génération qui joue un rôle. Et tant mieux qu'ils osent ce que leurs parents n'osaient pas faire. Parce que au-delà de l'aspect dictature, torture, peine de mort qui est incontestable hein, de RDA, il y avait aussi des choses intéressantes sur le rapport au travail, les femmes, les rapports hommes-femmes, sur le financement des collectifs artistiques dans les entreprises, enfin plein de choses qui ont été, on a un peu jeté le bébé avec l'eau du bain en fait. Et cette génération-là est capable de dire bon, il y avait des choses intéressantes et qui nous serviraient aujourd'hui pour sortir de cette recherche de la croissance à tout prix, sortir de notre modèle économique qui va dans le mur, en fait.
Elisa Gudenstein-Mann, co-auteur de la RDA après la RDA.
Les meurtriers de Detlef Roveder semblent s'être évaporés.
L'assassinat de Detlef Roveder était vraiment un crime parfait.
Roveder était la personne la plus menacée d'Allemagne de l'Ouest.
Et si les Allemands n'ont pas pu suivre les célébrations de cet anniversaire en réel, ils ont été en revanche très nombreux à regarder ce documentaire diffusé sur la plateforme Netflix intitulé « Un crime parfait ». En 4 épisodes, la série revient sur un événement tragique de la réunification, l'assassinat d'un des hommes les plus puissants de cette nouvelle Allemagne, le directeur de l'organisme chargé des privatisations. Julien Michossi, à Berlin, l'a regardé pour nous.
Le chef de Berliner Treuhandanstalt Roveder est mort.
1er avril 1991, alors que les deux Allemagnes ne sont officiellement réunifiées que depuis 6 mois, Detlef Roveder est assassiné dans sa villa. 3 balles tirées de l'extérieur qui enlèvent la vie à cet homme de 58 ans, devenu le symbole de la brutalité économique et sociale d'un processus jugé par beaucoup non pas comme une réunification, mais comme le passage féroce et à marche forcée du socialisme au capitalisme.
Das perfekte Verbrechen überhaupt.
Le crime parfait absolu avec pour victime celui nommé directeur de la Treuhand, l'agence fédérale en charge de la privatisation de milliers d'entreprises de l'ex-RDA, des géants industriels au petit commerce. 30 années plus tard, les responsables de la mort de Detlef Roveder courent toujours et entre-temps, la Treuhand est entrée dans l'histoire comme l'organisme qui a vendu au rabais ce qu'il restait de l'économie communiste est-allemande, avec 4 millions de travailleurs exposés du jour au lendemain à la violence sociale du capitalisme. Exercice rodé dans de nombreuses autres séries signées Netflix, le documentaire explore différentes pistes. Celle du groupe terroriste d'extrême gauche, de la fraction Armée Rouge ou encore d'anciens hauts gradés de la Stasi, la police politique est-allemande. Mais ce qui interpelle le plus tout au long des 4 épisodes, c'est l'atmosphère de ces années de révolution. Un chômage qui explose, d'immenses manifestations devant le siège de la Treuhand et des blessures encore loin d'être cicatrisées aujourd'hui, causées par l'effacement brutal de 40 années d'histoire, celle de la RDA au profit d'un modèle unique, l'économie de marché, bien loin du mythe des paysages florissants promis par Helmut Kohl, ancien chancelier et artisan majeur de la réunification.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr à la rubrique podcast et sur les réseaux sociaux. On se retrouve dès demain.